Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux qui vient vous parler pendant une heure de l'actualité des droits humains, comme tous les mardis, deux fois par mois. Donc là, c'est le dernier mardi du mois puisqu'on est le 31. Et avant le prochain rendez-vous du mois prochain, mais ça, on vous le dira à la fin. Voilà, avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Et il y a Ronan, fidèle au poste et à ses boutons.
Bonsoir.
Quand je parle de boutons, c'est les boutons sur la console. Hein. Je précise. Je vois que.
Pourquoi tu penses à quoi? Non, mais vas-y.
Non, mais je déjà. En même temps, c'est Halloween, ça aurait pu être les boutons.
Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, je ne l'ai même pas fait exprès. Tu vois, c'est une bonne remarque. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu être déguisé aussi.
Je suis déguisé tous les jours.
L'année prochaine, tu nous feras ça, Ronan. Tu te déguiseras.
Mais pourquoi moi?
Tu te déguiseras en citrouille.
Mais parce que c'est plus facile de s'attaquer à toi, quoi.
Ouais, d'accord.
En parlant de s'attaquer, on va croire qu'on a tout répété à l'avance, mais ce n'est pas du tout le cas. Et on a quand même préparé l'émission, mais on n'a pas préparé tout ça. Et donc, en parlant de s'attaquer, ben c'est un peu ce que je voulais vous dire en petit chapeau pour l'émission, en petite présentation. Parce que bon, la situation des droits humains à travers le monde, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de nouvelles qui ne vont pas dans le bon sens. Les répressions à droite et à gauche se multiplient. Sous l'argument de lutte contre le terrorisme, des États qui jusqu'à présent étaient à peu près démocratiques remettent en cause certaines libertés fondamentales. C'est le cas chez nous. On vous en a déjà parlé avec l'état d'urgence et la loi qui est en train de passer actuellement. Mais malheureusement, ce n'est qu'un exemple. Aux États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir que la présidence de monsieur... Comment s'appelle-t-il déjà ?
Trump.
Voilà.
Aux États-Unis.
Trump ne va pas vraiment dans le respect des droits humains et ne va pas vraiment dans le respect des Africains américains, comme on dit par exemple, etc. Donc évidemment, on a vraiment l'impression que de temps en temps que la situation vient plutôt en empirant. Alors il faut être conscient que c'est pas toujours simple, mais il faut être conscient aussi que la seule façon pour faire bouger les choses, et encore ce qu'on vous dira ce soir va dans ce sens-là, que pour faire bouger les choses, il faut être d'une part mobilisé. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on est sûr qu'on n'obtiendra rien de ce qu'on demande, mais que si on fait quelque chose, il y a peut-être une chance qu'on obtienne une partie de ce qu'on demande, voire tout ce qu'on demande. Et que pour ça, ça suppose aussi d'agir de façon solidaire, aussi bien au niveau d'Amnesty International entre nous, vis-à-vis des gens qu'on défend, que vis-à-vis des populations civiles en général, que vis-à-vis des autres mouvements de défense des droits humains, etc., etc. Et qu'il faut travailler main dans la main avec tous les gens qui se préoccupent de ce genre de choses. Donc on va vous en parler ce soir, on va vous parler de la Turquie, on va vous parler d'une actualité qui se passe en Australie, un pays dont on ne parle pas souvent dans les émissions, mais Clarisse va vous en parler. On va parler de ce qui se passe aussi chez nous, avec la problématique des enfants mineurs isolés. Merci, je cherchais le terme. Et puis, Mina va vous parler de culture, Ronan va vous parler aussi de bonnes nouvelles, bien sûr, comme on a l'habitude. Et puis, vous verrez bien jusqu'à 20h.
Et de l'Égypte que je parle aussi, je me sens.
Oui, on va parler de l'Égypte. Ouais. Oui,
mais La culture engagée.
C'est ça. Et je ne voulais pas tout dire non plus pour laisser un suspense.
C'est comme surtout que tu avais oublié, c'est tout. Oh.
Je ne relèverai pas. Donc voilà. Alors pour vous parler de la Turquie, puisqu'on a une actualité nous-mêmes amnistienne importante vis-à-vis de ce pays, et je vais vous en parler après, mais en présentation, on a le son d'une vidéo qui est sortie sur le site d'Amnesty très récemment, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement, je crois qu'elle date d'hier, et je vous ai récupéré le son qui se suffit amplement, même si on n'a pas les images, le son est très très très éloquent. Donc on écoute.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une tentative de coup d'État en Turquie a avorté. « une partie de l'armée turque s'est rebellée et a voulu renverser le gouvernement Erdogan. Cette partie de l'armée turque a été extrêmement violente, puisque plus de 200 personnes sont mortes, 1400 personnes ont été blessées, et des bâtiments officiels, le Parlement, a été attaqué et pour une part ravagé. Donc on peut tout à fait comprendre que les autorités turques, à ce moment-là, et une partie de la population turque, cherchent à faire la lumière sur les auteurs du coup d'État. Le problème, c'est que dès le lendemain, les autorités turques mettent en place une politique de répression qui est allée crescendo pendant plus d'un an.
Ce qui est important de savoir, c'est que dès le soir même de la tentative de coup d'État, c'est les propos de Erdogan qui dit « c'est une bénédiction de Dieu ». Le projet de Erdogan a toujours été de créer ce régime super présidentiel qui lui permettait de se maintenir au pouvoir malgré les déboires qu'il pouvait avoir. Donc son objectif est de rester au pouvoir quelle que soit la situation.
L'état d'urgence instauré en Turquie, le président Erdogan l'a annoncé dans la nuit, c'est une première dans le pays depuis 15 ans, alors que dans le même temps, le grand ménage se poursuit au sein de l'État. Plus de 10 000 personnes auraient été interpellées.
C'est vrai que l'état d'urgence et les premières arrestations concernaient la tentative du coup d'État et visaient, dans un premier temps, essentiellement des gens proches du mouvement güléniste. Nous avons vu très rapidement que des opposants gülenistes, des opposants de longue date dans leur lutte politique, dans leur choix, que ce soit des syndicats, que ce soit des journalistes, que ce soit des intellectuels, donc ça s'est étendu.
Ce sont aujourd'hui plus de 50 000 personnes en Turquie qui sont derrière les barreaux. Ce sont 110 000 personnes qui ont été limogées de la fonction publique. La plupart du temps, sans aucune raison, si ce n'est une suspicion très peu avérée de sympathie avec cette organisation considérée comme terroriste.
Armée, magistrature, renseignement, presse bien sûr, tous les milieux sont touchés et les autorités ferment à tour de bras les journaux, radios et chaînes de télévision qui leur déplaisent.
La Turquie, pour commencer, occupe la 155e place sur 180 dans notre dernier classement mondial de la liberté de la presse. Effectivement, la situation de la liberté de la presse était grave, déjà depuis de nombreuses années, et depuis la tentative de putsch il y a un an, elle est catastrophique. Aujourd'hui, la Turquie est la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias, avec plus de 100 journalistes derrière les barreaux. Près de 150 médias ont été fermés en un an par décret, sans autre forme de procès, sous l'état d'urgence en place depuis la tentative de putsch. Les mesures administratives également ciblent les journalistes, près de 750 cartes de presse ont été annulées. Donc c'est vraiment une situation absolument dantesque.
Et enfin, les défenseurs des droits humains ont eux-mêmes été pris pour cible. Plus de 400 associations turques ont été purement et simplement fermées par décret. Ces associations s'occupaient de droits des femmes, de droits à l'éducation, d'aide humanitaire aux réfugiés ou aux personnes les plus pauvres, ou étaient des organisations de défense des droits des personnes. Quand on s'attaque aux défenseurs des droits humains, on s'attaque aux dernières personnes qui dénoncent ce que vivent aujourd'hui des dizaines et des centaines de milliers de Turcs, réduits au silence par un gouvernement Erdogan de plus en plus autoritaire et qui s'enfonce dans une spirale de répression absolument totale.
La mobilisation est une chose importante. Les gens doivent savoir ce qui se passe en Turquie. Et c'est difficile de s'imaginer, en fait, l'ampleur de la tragédie à laquelle on assiste dans ce pays. Donc il faut continuer à informer. Ça, c'est déjà quelque chose. Et le plus la mobilisation est large, le plus de pression on aura sur les gouvernements pour qu'ils agissent.
Donc ce que nous demandons à Amnesty International, c'est assez simple, finalement. C'est la libération de l'ensemble des prisonniers d'opinion et des défenseurs des droits humains, des journalistes, des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec un quelconque crime, avec une quelconque organisation criminelle, qui tout simplement demande des comptes au gouvernement Erdogan pour que la Turquie respecte ses engagements internationaux en matière de respect des droits humains.
Donc voilà, vous avez entendu un petit résumé de la situation en Turquie, faite par Amnesty France, et qui recoupe ce que vous avez pu aussi voir vous-même et entendre sur les différents médias, sur la télévision, dans les journaux, etc. Ce qu'on pourrait dire, c'est, bon, moi j'ai regardé effectivement plusieurs dossiers d'Amnesty et j'ai aussi écouté des enregistrements que j'avais fait, là, que j'avais chez moi, sur l'évolution de ce gouvernement de M. Erdogan en Turquie. Comment on en est arrivé là? Ben, c'est un peu un cas d'école d'un régime qui utilise la démocratie pour arriver au pouvoir et qui après, s'assoit sur tous les principes de respect des droits humains qu'il avait pourtant évoqué dans un premier temps. Ce monsieur Erdogan, alors sans vous faire un cours d'histoire, mais ce monsieur Erdogan a commencé par être maire d'Istanbul. Et donc, en tant que maire, au niveau de son mandat, il a réussi à faire des choses assez positives dans la ville pendant qu'il y était, ce qui lui a permis effectivement d'avoir une certaine popularité, des choses positives en termes d'aménagement de la ville, traitement des ordures, enfin des choses très basiques mais qui étaient très mal respectées à Istanbul, et il a amélioré un certain nombre de choses. Donc ça a amélioré sa popularité, et après il a fondé un parti politique qui s'appelle l'AKP, qui est un parti religieux puisqu'il se réclame de l'islam, et qui lui-même s'est mis en lice pour les élections présidentielles dans les années, alors j'ai plus la date en tête, hein, 2002 ou 2003, je ne sais plus précisément. Et ce parti n'est pas arrivé en tête, mais est arrivé avec une majorité relative au Parlement. Donc il a pu effectivement faire un gouvernement où il était largement représenté, et M. Erdogan est devenu Premier ministre. À la suite de quoi, M. Erdogan, en tant que Premier ministre, a mené une politique qui était relativement, même de façon assez importante, libérale au sens respect des libertés, puisqu'il a fait prendre des mesures qui ont permis des libertés d'expression, de la presse d'opposition, etc., de se manifester. Il avait même fait des déclarations à l'époque en disant qu'il réfléchissait au fait de permettre aux droits des homosexuels de se manifester de façon beaucoup plus ouverte dans le pays, ce qui était pas mal d'avancées un peu surprenantes par rapport à ce qui se passait avant en Turquie, puisque la Turquie a longtemps été une dictature militaire et a longtemps été un pays qui opprimait largement toute forme d'opposition. Et puis, une fois que M. Erdogan est parvenu enfin aux élections suivantes à se faire élire président de la République, là, son attitude a commencé à changer. Et il a commencé à prendre des mesures, effectivement, qui étaient beaucoup plus liberticides et beaucoup moins tolérantes, et à dire que le respect de l'intégrité de l'État obligeait, effectivement, les gens à ne pas contester un certain nombre de décisions qu'il prenait, qu'il allait gouverner par décret, sans passer par le Parlement, etc. Enfin, il a suivi plusieurs étapes. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il avait fait il avait signé un pacte avec le mouvement kurde, le mouvement autonomiste kurde important en Turquie, qui avait abouti à un cessez-le-feu qui a duré pendant 2 ans, lequel cessez-le-feu a été remis en cause il y a un peu plus d'un an par M. Erdogan lui-même. Donc il s'est servi de ça aussi pour asseoir son pouvoir. Et donc effectivement maintenant, la situation est que la répression, comme vous l'avez entendu, est absolument féroce. Il accuse Monsieur Goulen d'être son principal opposant. Alors, je ne sais pas si parmi ceux qui sont autour du micro, quelqu'un a une idée de ce que ça représente, le mouvement de Monsieur Goulen, le principal opposant, soi-disant, de Monsieur Erdogan, ce que ça représente. Hein. tout le monde regarde le mur. Bon, en fait, Monsieur Goulen, c'est quelqu'un qui est c'est un Turc qui est responsable d'une obédience religieuse turque. International, qui dirige un mouvement de pensée avec un mouvement éducatif, avec des écoles, enfin, etc., répartis dans plusieurs pays du monde, et qui a dû fuir la Turquie à la fin des années 90, parce qu'il était menacé avant l'arrivée au pouvoir de M. Erdogan, par les précédentes autorités. Donc il s'est réfugié aux États-Unis, où il est toujours. Et il a été, pendant au début des années 2000, un très grand ami de M. Erdogan, quand celui-ci voulait arriver au pouvoir, qui est allé le voir aux États-Unis pour lui réclamer son aide. Et ils étaient, passez-moi l'expression, dans un premier temps, copains comme cochons. Maintenant, effectivement, que M. Erdogan a révélé son vrai visage, eh ben, M. Goulen est devenu le principal homme à abattre, étant bien sûr un activiste terroriste, absolument insupportable. Et il l'accuse d'avoir fomenté un coup d'État qui a eu lieu l'été dernier, vous devez vous en rappeler, pas l'été de 2017, l'été 2016, un coup d'État en Turquie, dont on n'a toujours pas su très bien qui était à l'origine de quoi, parce que M. Erdogan, visiblement, il se sert aussi de gens pas très, comment dire, pas très clair pour faire des choses bizarres aussi, pour aller dans son sens. Il y a eu par exemple des attentats à la bombe quand il y avait les élections là-bas pendant les campagnes électorales. Les attentats à la bombe qui se passaient régulièrement dans les meetings des partis d'opposition. Et après, on accusait effectivement ces gens-là, soit d'être à la solde des terroristes islamiques, soit d'être à la solde de ce mouvement Gulen, enfin, etc., etc. À chaque fois, c'était toujours dans le même sens. Donc, actuellement, effectivement, M. Erdogan est arrivé à faire un mouvement extrêmement, extrêmement, extrêmement autoritaire et à s'attaquer, ça c'est la dernière évolution qui nous intéresse, nous, directement, s'attaquer aux défenseurs des droits humains et plus particulièrement aux gens d'Amnesty. Donc, il a fait arrêter au mois de juin dernier, je dis bien il a fait arrêter, hein, parce que on peut pas imaginer que les gens, les juges et la police qui a fait ce genre de choses l'a fait de son propre chef. Les ordres venaient forcément de plus haut. Il a fait arrêter le président d'Amnesty Turquie et la directrice. Donc Monsieur Taner Kilic, qui est le président, et Madame İdil Ezel, qui est la directrice. Et donc ces gens-là ont été accusés en juin dernier de différents chefs d'inculpation, dont le principal est d'organisation à de complicité avec une association terroriste. Alors c'est pas directement Amnesty qui est supposé être une association terroriste, ce qui serait quand même un peu gros, mais c'est parce qu'en fait la section d'Amnesty Turquie a enquêté et s'est intéressée aux atteintes aux droits de l'homme faites par le gouvernement d'Erdogan vis-à-vis de la minorité kurde. Ce qui paraît tout à fait évident, quand on s'intéresse aux droits humains, il n'y a pas de limite. Donc, c'est tout à fait normal que Amnesty Turquie ait travaillé là-dessus. Comme ils ont travaillé avec des organisations, enfin, en prenant des renseignements auprès d'organisations kurdes, eh bien, monsieur le président d'Amnesty Turquie et madame la directrice sont des terroristes.
Oh, mais ça, c'est une excuse à deux balles, ça.
Bah, c'est une excuse à deux balles, mais n'empêche que c'est celle-là qui a été retenue.
Tout à fait.
Donc, ils ont passé plusieurs mois en prison. Alors, Amnesty s'est mobilisé. On vous en avait déjà parlé lors de précédentes émissions. Amnesty International, des différentes sections, s'étaient mobilisées pour la défense de ces deux personnes, avec d'autres, hein, parce qu'ils étaient enfermés avec 10 autres opposants politiques et prisonniers d'opinion en Turquie et défenseurs des droits humains. Et donc la directrice a été libérée, là, il y a 3 jours, le premier jour du procès, mais elle a été libérée de façon qu'on juge, nous, insuffisante, puisqu'elle est libérée sous caution.
Oui.
Et le président, lui, par contre, est toujours en prison et est toujours inculpé. Son procès a commencé, mais pour l'instant, son inculpation n'a pas été levée. Alors, je vais vous lire simplement le communiqué d'Amnesty International qui est signé par le secrétaire général qui s'appelle Salim Chetty et qui a dit « À la suite de la décision d'un tribunal à Istanbul de remettre en liberté conditionnelle 8 défenseurs des droits humains, tandis que leur procès se poursuit, Amnesty International a déclaré « Aujourd'hui, enfin, nous fêtons le retour de nos amis et collègues auprès de leurs proches. Ils pourront dormir dans leur lit pour la première fois depuis près de 4 mois. Pourtant, cette joie est entachée par le maintien en détention du président d'Amnesty International Turquie, Taner Kilic, dont le procès doit s'ouvrir demain, 26 octobre. » Ça, c'était le 25. Ces poursuites motivées par des considérations politiques sont une manœuvre visant à réduire au silence les voix critiques en Turquie, mais n'ont servi qu'à mettre en lumière l'importance que revêtent les droits humains et ceux qui consacrent leur vie à les défendre. Ce soir, nous prenons le temps de célébrer, mais demain, nous poursuivrons notre lutte pour faire en sorte que Taner, İdil et leurs collègues soient acquittés de ces accusations sans fondement. Nous continuerons jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées et que tous soient libérés. 10 militants, dont İdil Ezer, directrice d'Amnesty International Turquie, ont été arrêtés le 5 juillet. Et le président d'Amnesty International Turquie, Taner, a quant à lui été arrêté un mois plus tôt. Ils sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste. Voilà. Donc, on continuera à se mobiliser pour ce qui se passe en Turquie. On est bien conscient que la situation là-bas est particulièrement difficile. Et on est très conscient que nos amis militants des droits humains en Turquie, qu'ils fassent partie d'Amnesty ou d'autres ONG ou d'autres associations, vivent des jours particulièrement difficiles et leur propre liberté est elle-même extrêmement mise à caution, pourrait-on dire, à l'heure actuelle. Donc on ne les oubliera pas, on continuera à se mobiliser pour eux. Continuez à aller sur le site d'Amnesty, hein, amnesty.fr, pour prendre des nouvelles et voir ce que vous pouvez faire. On peut toujours intervenir, bien sûr, pour signer la pétition pour la libération de Taner Kilic. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Après ce dossier Turquie, il y avait, je crois, Ronan qui voulait vous parler, lui, d'Égypte. C'est pas très loin de la Turquie, d'ailleurs, l'Égypte.
Ouais, mais c'est pas tout à fait pas pour l'Égypte, c'est surtout un coup de gueule par rapport à la France.
Alors, vas-y.
Voilà. Donc, depuis la destitution du président Morsi, les autorités égyptiennes mènent une répression sanglante. Pourtant, en termes de vente d'armes, l'Égypte reste l'un des meilleurs clients de la France. Le 21 août 2013, l'Union européenne demande à ses États membres, dont la France, de suspendre leur transfert d'armes vers l'Égypte. Le but, éviter qu'elles ne soient utilisées à des fins de répression interne. Répression interne qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, sous le prétexte de rétablir la stabilité. Malgré cela, l'Égypte reste pourtant à ce jour l'un des meilleurs clients de la France. Pourtant, depuis 2011, la France n'a jamais vendu et livré autant d'armes à l'Égypte en si peu de temps. Ce pays est son quatrième plus important client sur la période de 2007-2016, sous couvert de lutte contre le terrorisme, bien sûr encore l'excuse, et en dépit des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 août 2013 et de la position commune de l'Union européenne de 2008. La France a continué à fournir des armes et des équipements pour pouvant servir à des fins de sécurité intérieure et de maintien de l'ordre, faisant d'elle un complice de la répression férocement mise en œuvre par les autorités égyptiennes. Le fait de fournir des armes qui vont probablement faciliter la répression interne en Égypte est contraire aux dispositions du traité sur le commerce des armes dont la France est partie et bafoue la position commune de 2008. Parce qu'on s'est beaucoup battu justement par rapport à ce traité-là que la France avait signé et en fin de compte...
Pour l'instant, oui, bien sûr. Dans ce moment, elle a signé, elle l'a même ratifié. Mais pour l'instant, même l'ayant ratifié, elle a du mal à respecter sa parole, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc, en 2016, la France a délivré des licences d'exportation pour la fourniture d'armes légères, d'armes à canon lisse, d'un calibre supérieur à 20 mm de munitions. Le gouvernement français a également autorisé la vente et la livraison de plus de 200 véhicules blindés entre 2012 et 2014, dont une partie a été déployée et utilisée par les forces de sécurité intérieure à des fins de répression durant les événements meurtriers de l'été 2013. Pourtant, en 2016, de nouvelles licences d'exportation ont été délivrées pour la fourniture de véhicules blindés, sans compter que des véhicules blindés similaires aux véhicules français de conception américaine ont été utilisés en 2017 au Sinaï, pour commettre des exécutions extrajudiciaires. La France fait partie de ces États qui transfèrent des armements pouvant être utilisés par des militaires au Sinaï sans pour autant assurer aucun contrôle ni aucun suivi pour déterminer dans quelle mesure ils risquent de servir à commettre et à favoriser de graves violations des droits humains. Les forces de sécurité agissent quasiment en toute impunité. Le recours excessif à la force, les arrestations arbitraires massives, la torture et les disparitions forcées font à présent partie de leur mode opératoire. Avec ces méthodes brutales, les forces de sécurité ont déjà tué des centaines de manifestants. Des milliers de personnes ont aussi été arrêtées et jugées dans le cadre de procès collectifs iniques, des détenus signalant régulièrement des actes de torture et d'autres mauvais traitements. Les membres des forces de sécurité égyptiennes utilisent souvent des matraques, des fusils, des canons à eau et des gaz lacrymogènes avec l'appui de divers types de véhicules blindés pour disperser les manifestations et les autres rassemblements publics à caractère politique. Ces équipements peuvent aussi être utilisés de manière abusive pour commettre d'autres violations graves des droits humains, par exemple pour faciliter des arrestations ou détentions arbitraires. En janvier 2015, au moins 27 personnes sont mortes dans le cadre de violences liées à des manifestations, dont un grand nombre du fait des forces de sécurité. En continuant de transférer des équipements susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la répression, la France risque de se rendre de nouveaux complices de l'action répressive des autorités égyptiennes. Le gouvernement français doit suspendre de tels transferts et agir de façon à ce que les conclusions du Conseil de l'Union européenne de 2013 ne soient pas remises en cause. Voilà, c'était mon coup de gueule parce que... C'est pas normal.
Tu vas te faire mal voir des ventes d'armes, des marchands d'armes français et du gouvernement qui les protège.
Justement, ce matin, ça n'a rien à voir. Je me posais une question parce que je voyais que ça n'a rien à voir avec l'État français. Ils remettaient des milliards d'argent. Je ne sais plus dans quel. Je me demandais d'où venait l'argent. Je commençais à comprendre.
Ah bon. Je crois que monsieur le président en chef de l'Égypte est venu à Paris il n'y a pas longtemps. Il a rencontré monsieur Macron, non? Il me semble que j'ai... Si, il est venu. Il est venu. Ça n'a pas fait la une des médias. Hein. Je ne crois pas que M. Macron ait beaucoup parlé non plus de droits humains avec lui. Mmh. Ouais, c'est aussi... Pourtant, quand il avait fait campagne, il avait dit qu'il c'était le candidat des droits humains, enfin, qu'il s'engageait à les respecter. C'est bizarre comme
Attends, tu vas voir, on va t'en causer tout à l'heure.
Et qui a dit ça? Tu vas voir comme les choses... Macron, si, je me rappelle que dans ses déclarations, il avait dit qu'avec lui, les droits humains, c'était une notion, enfin, que ça lui tenait particulièrement à cœur.
Une notion,
tout à fait. Enfin, quand monsieur le président égyptien vient, il en parle beaucoup moins.
Ouais, mais quand tu vois tout ce qu'ils ont vendu, c'est...
Bon, on écoute un peu de musique?
Je pense que c'est le moment.
into the air. I love you more than anybody else, baby. Can't you tell I'm an easy touch? Oh, baby, baby, I think I love you too much. If I picked you up, you'd slip right away. And if I locked you up, you'd find a way to make me pay. You're gonna hurt me more than anybody else, 'cause you know I'm an easy touch.
Bien, de retour à l'antenne, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour la suite de l'émission du 31 octobre pour la défense des droits humains. On vient d'entendre Ben Poul. Ben Poul, c'est quelqu'un qu'on a vu ensemble il n'y a pas longtemps, Rodan et moi. On est allé le voir à la Traverse, c'est ça,
T'es obligé de raconter notre vie.
Ben non, mais c'est vrai, on l'a vu en concert, c'était bien. Donc on a eu envie de vous le faire écouter ce soir. Il n'est pas très connu, c'est un guitariste anglais, mais c'est très bien. Ben Poul, on vous le recommande.
Il est pays irlandais.
Non.
Là, je crois qu'il était irlandais.
Non, il est anglais. Gallois, pour être précis. Voilà. Donc, on va changer de pays. Tiens, en parlant de Gallois, on va aller en Australie. C'est Élise qui... Claire Lise, je l'appelle Élise maintenant. Claire Lise qui nous emmène en Australie.
Alors, je vais vous parler de l'île de Manus. Alors, je crois que je vous en avais déjà parlé. Alors, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou au début de l'année.
C'était l'année dernière. C'était... Oui. Même, je me rappelle que je t'avais coupé.
Tu m'avais coupé, tu recommences. Ah, disons, l'histoire se répète.
Non, parce que j'avais la même info que toi.
Bon, d'accord.
Bon, allez, alors, on laisse parler, Carlis.
Les autorités ne doivent pas user de violence pour transférer de force les réfugiés dans des centres de transit. Donc, on avait dénoncé au niveau international les conditions dans lesquelles étaient attrapés les migrants qui se dirigeaient vers l'Australie pour être enfermés dans des centres de rétention, notamment sur l'île de Manus. Donc il y a eu tout un mouvement pour dénoncer ce qui s'y passait. Et l'Australie a été un peu mise en demeure de trouver des conditions un peu meilleures que ce qui se passait dans le centre de rétention de l'île de Manus. Et donc il y a un de ces centres, un des plus inhumains, qui doit fermer aujourd'hui, 31 octobre 2017. Mais ils vont transférer les personnes vers des mini-centres qui ne sont pas finis, qui ne sont pas terminés, et où les personnes vont être encore moins en sécurité que dans le centre qui était pourri. Voilà, je vous résume et maintenant je vous raconte. Donc les autorités d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée doivent faire en sorte que la confrontation tendue avec les réfugiés sur l'île de Manus ne dégénère pas en de violences imputables aux forces de sécurité, alors qu'elles prévoient de transférer des centaines de réfugiés du centre de détention vers des centres de transit sur l'île de Manus, a déclaré Amnesty International. Donc les tensions sont de plus en plus vives sur l'île de Manus ces dernières semaines. Des centaines de réfugiés et de demandeurs d'asile qui vivent dans l'actuel centre de détention pour réfugiés ayant déclaré qu'ils allaient résister à tout transfert parce qu'ils craignent pour leur sécurité s'ils sont déplacés vers de nouveaux sites sur l'île. Et je me rappelle que quand on avait parlé de l'île de Manus, on vous avait expliqué que les migrants en Australie sont tellement mal accueillis que même sur cette île, en fait, ils sont dans un centre où s'ils sortent à l'extérieur, ils étaient attaqués par les villageois, attaqués à la machette, etc. Et, tout. Et donc là, si on les déplace de ce centre pour aller vers des mini-centres, ils ont peur d'être encore plus sujets à des violences, en fait. Alors, le transfert imminent vers des centres de transit de l'île de Manus ne doit pas servir d'excuse pour user de violence contre les réfugiés et demandeurs d'asile. Il est du devoir des autorités de garantir que les forces de sécurité de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont le passé est marqué par des atteintes aux droits humains, ne recourent pas à la force excessive, a déclaré Audrey Gogram, directrice du programme thématique mondial à Amnesty International. Le centre de détention de l'île de Manus, où les réfugiés et demandeurs d'asile souffrent depuis 4 ans de la politique cruelle et illégale de traitement hors de ses frontières mise en œuvre par l'Australie, donc fermera donc aujourd'hui, 31 octobre 2017. Des représentants du gouvernement australien ont annoncé que l'eau et l'électricité seront coupées après le 31 octobre et refusent d'exclure de transférer de force ceux qui ne quitteront pas les lieux de leur plein gré. La fermeture de ce centre de détention ne signifie pas la fin du calvaire pour les réfugiés s'ils sont transférés vers d'autres centres. Plus de 600 personnes doivent être déplacées ces prochains jours vers des centres de transit, notamment celui de Langero Est. Fait préoccupant, les divers centres de transit sont bien trop petits pour accueillir autant de réfugiés ou ne sont pas encore terminés. En outre, le centre de Lorango se trouve à proximité de villages, ce qui pourrait favoriser des agressions contre les réfugiés. En effet, des habitants de l'île ont attaqué à plusieurs reprises, parfois en brandissant des machettes, des réfugiés et demandeurs d'asile sur l'île de Manus ces derniers mois et en ont grièvement blessé certains. Les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger les réfugiés contre ces violences. Comment croire alors que la fermeture du centre actuel est la solution si les gens sont simplement transférés d'un endroit violent à un autre? Les informations selon lesquelles les nouveaux centres ne sont pas terminés et les réfugiés y seront exposés à des risques de violence sont extrêmement préoccupantes. La sécurité et le bien-être des réfugiés doivent être la priorité, donc a encore déclaré Audrey Gogram. Le fait que les réfugiés que le gouvernement australien prend au piège d'un système s'apparentant à de la torture depuis des années, s'oppose à leur transfert parce qu'ils ont peur pour leur sécurité dans d'autres lieux sur l'île, en dit long sur les risques auxquels ils pensent être exposés. La fermeture du centre de détention a été annoncée en 2016 à la suite d'une décision rendue par la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a statué que la détention des réfugiés et demandeurs d'asile par le gouvernement australien était illégale et anticonstitutionnelle. Amnesty International a recensé une longue liste de violations graves des droits humains perpétrées sur l'île de Manus, notamment leur détention dans des sites surpeuplés, dans une chaleur étouffante, sans accès à des soins médicaux adaptés. Elle a demandé que le centre soit fermé et que les réfugiés et demandeurs d'asile soient mis en sécurité. Or, déplacer les réfugiés d'un endroit à un autre ne sert qu'à masquer les failles d'un système abusif. Cela ne remédie en rien au problème de fond et peut même qu'aggraver la situation. Les autorités australiennes doivent prendre la seule mesure humaine qui soit et transférer les réfugiés et demandeurs d'asile de l'île de Manus en Australie pour les mettre en sécurité, a déclaré Audrey Gogram. Le gouvernement australien doit assumer sa responsabilité en protégeant les droits humains de tous ceux qui se trouvent sous sa juridiction en tant que personnes cherchant asile et cesser d'utiliser les centres de traitement extraterritoriaux. Tant que la même politique cruelle et inhumaine vis-à-vis des réfugiés sera appliquée, les mêmes violations perdureront. Voilà.
Donc en gros, c'est une fausse mesure pour améliorer les choses, quoi. Voilà. On cache la misère, mais pour la faire continuer autrement et ailleurs.
Mais on continue à la cacher par rapport à l'Australie, mais les conditions sont extrêmement difficiles aussi. Et bon, là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais par exemple, on vous avait parlé aussi des conditions sur les îles grecques, qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. L'hiver approche. Puisqu'on est déjà le 31 octobre 2017, et ça ne s'arrange pas. Et c'est vrai que quand on rencontre des personnes demandeurs d'asile, quand elles arrivent à Évreux, pour certaines, elles sont passées par les îles grecques, et leurs témoignages sont vraiment édifiants sur les conditions terribles qu'elles ont pu vivre, le froid, le manque de nourriture, le manque de soins, et ils cherchent à s'en échapper le plus possible, quoi. Voilà.
C'est l'éternel problème aussi des réfugiés, hein, de toute façon, dont on parle souvent, quasiment à toutes les émissions, sous une forme ou sous une autre. C'est l'éternel problème des réfugiés. Et comme dit Amnesty, ce n'est pas l'appellation crise des réfugiés dont on nous rabat aussi les oreilles à droite et à gauche. Ce n'est pas le terme exact. Il n'y a pas de crise des réfugiés, même s'il y en a beaucoup. C'est une crise de l'accueil des réfugiés, ce qui n'a rien à voir. On n'est pas capable de les accueillir. C'est ça le problème. Voilà, donc il y avait Ronan qui est en train de griffonner je ne sais quoi sur sa feuille de papier, mais qui doit normalement vous parler, vous donner une bonne nouvelle. C'est, à mon avis, c'était ça qui remettait en forme.
Tout à fait. Donc bah, c'est une coïncidence, mais je suis encore en Égypte.
Ah. Oui.
Aujourd'hui, Ibrahim Alaoua est rentré chez lui après 4 longues années d'emprisonnement en Égypte. Le 18 septembre 2017, ce jeune ressortissant irlandais a enfin été acquitté de toutes les accusations portées contre lui. Le jugement a été rendu après plus de 30 ajournements et reports. Il faut savoir qu'Ibrahim a passé au total 1472 de ses pré-séjours accroupis en prison. Et là, c'est grâce donc à une mobilisation d'Amnesty, surtout Amnesty Irlande, parce que ces 4 dernières années, des milliers de gens se sont mobilisés pour qu'Ibrahim soit remis en liberté. Près de 30 000 personnes sont intervenues, demandant sa libération immédiate et inconditionnelle. Des centaines d'appels ont été passés à l'ambassade égyptienne pour protester contre sa détention. Et il y a eu plus de 13 000 cartes postales de campagne au président égyptien Al-Sisi. Donc, ce qui prouve qu'on bouge.
Ben, c'est ce que je disais au début, hein, tout à fait. C'est une illustration. Quand on se mobilise et quand on est solidaire, les choses avancent.
Ça a peut-être duré 4 ans et tout, mais en fin de compte, aujourd'hui, il est libre.
Moi,
et...
j'ai téléphoné à l'ambassade de Turquie la semaine dernière par rapport à la situation de nos amis là-bas. C'est vrai ? Je les ai appelés ?
Non, mais je sais.
Et j'ai une dame au téléphone. Après plusieurs essais, j'ai eu une dame au téléphone qui a fini par décrocher. Et quand j'ai commencé à parler d'Amnesty et donc de Taner et d'Idil, elle m'a coupé la parole en disant « Non, on sait, on est au courant. » Mais je lui ai quand même dit ce que j'avais à lui dire.
Et la discussion se passait en quelle langue ?
En français. Moi, je ne parle pas du tout turc, hein, donc voilà, non. C'était en français.
Oh, bah, là, tu me déçois. Non, là, tu me déçois.
Bon, il y avait Mina qui était venue pour sa chronique culturelle. As-tu des informations culturelles, Mina, à nous donner ?
Ça, c'est de la culture engagée.
Voilà, dans la culture engagée, ce soir, je vous propose 2 BD. Un roman graphique et une BD qui explique que l'histoire d'amour entre la France et le conflit israélo-palestinien. Donc c'est une BD de Alain Grèche et Hélène Aldeguerre, de récente, de avril 2017, aux éditions La Découverte. Et ça parle du conflit israélo-palestinien. Depuis 1967, il déchire les partis politiques, divise les milieux diplomatiques, agite le monde intellectuel, ébranle les journalistes mobilise les artistes et bien souvent scandalise l'opinion publique. C'est cette histoire moins connue qu'on ne le croit que raconte ce livre. Voilà, mon premier livre que j'ai commencé, qui est très bien, qui explique pour... c'est vraiment pas le livre pour les nuls. Mais si on n'a pas tout compris dans le conflit israélo-palestinien, c'est bien de lire ce livre.
Je crois qu'on est nombreux à ne pas avoir tout compris non plus, hein, de toute façon. Parce que et c'est quand même une histoire complexe.
Et là, c'est une partie, c'est le rapport aussi avec la France et quelle partie d'État qui a été colonisée. Je vous fais de mémoire, comme Didier, de ce que j'ai déjà lu.
Mais c'est en bande dessinée, ton livre ou
et
c'est...
je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. Oui,
ouais, tout à fait.
Je ne peux pas dire que c'est un roman graphique parce que c'est en 1900.
Ah, tout à fait,
un roman graphique, c'est quand il y a une histoire comme dans un roman, mais avec des dessins.
D'accord. Ouais.
Le deuxième, c'est une BD de 2011, très bien faite, sur le droit d'asile et sur les mineurs isolés. Je vous fais le petit résumé et après je vous expliquerai pourquoi il est très bien, surtout pour expliquer à l'heure actuelle les changements. Se servant de son expérience personnelle, Étienne Gendrin, jeune dessinateur de BD, rencontre des demandeurs d'asile et des jeunes en difficulté au foyer du jeune homme de Strasbourg, géré par l'armée du salut. L'auteur donne la parole à de jeunes garçons, ayant fui leur pays en guerre pour certains, et remplis d'espoir malgré tout. Éclairage réaliste sur une réalité d'aujourd'hui, celle du droit d'asile. En fait, pourquoi il est très bien fait ? Parce qu'on voit chaque cas, chaque histoire, et comment... les jeunes justement qui sont en difficulté et les jeunes réfugiés demandeurs d'asile s'entraident. Ils arrivent, ils sont combatifs, ils ont envie de s'en sortir, malgré leur histoire. Si c'est parce qu'il y a eu une guerre, parce qu'ils ont été orphelins et ils se sont fait battre et ils ont voulu venir en France pour sauver leur vie, dans tous les cas. Ils ont toujours voulu aller mieux. Et... à cette époque, en 2011, il y avait encore toute une procédure qui suivait, où ils devaient raconter leur histoire, mais avec des troubles, des... Non, c'est pas des troubles, c'est des... comment on dit ça ? Vous savez, un truc psychologique en...
Des tests ?
Non.
Un traumatisme,
merci. Ah. Un traumatisme psychologique, ils inventaient un peu une histoire. Donc des fois, c'est comme ça qu'ils n'avaient pas... leur droit d'asile en France. Ça explique très bien tout ça, toutes les démarches, toute l'humanité. Et je vous le conseille. Donc, Droit d'asile, Étienne Gendrin, aux éditions Des Ronds dans l'eau. Donc, ces deux livres-là, je les ai trouvés à la médiathèque en centre-ville. Donc, vous pourrez les emprunter quand je les aurai rendus.
J'aime bien que tu finales.
Oui, parce que si vous y allez maintenant et vous les demandez, ils vont vous dire, ah ben justement, ils sont sortis.
Voilà.
Et nous, on sait par qui. Hein.
Ben voilà. Et justement, par rapport au droit d'asile, je vais laisser Claire Lise vous dire, à l'heure actuelle, à la préfecture de l'Eure ou dans toutes les préfectures en France, comment ça se passe.
Alors, attends, parce que j'ai deux communiqués, parce que tu es arrivée en retard, donc je sais pas.
Oui, mais en fait, ça s'appelle oui. Rebondir dans une
oui,
émission.
Oui, c'est bien.
Ouais. Alors, pensé, en fait.
J'ai deux communiqués différents qui sont écrits, donc en fait, dont les signataires sont des associations. Donc, je vais vous en parler. Il y en a un qui s'appelle « Mineurs non accompagnés, non au recul des droits de l'enfant dans notre pays ». Lors de son allocution devant le Congrès de l'Assemblée des départements de France, le 20 octobre 2017, le Premier ministre de notre gouvernement a annoncé que l'État assumera l'évaluation et l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineures, entrant dans le dispositif de protection de l'enfance, jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée. À la veille de la préparation du projet de loi relatif à l'immigration, nos organisations affirment fortement leur opposition à ce que l'accueil, la mise à l'abri, l'évaluation ou l'accompagnement des mineurs non accompagnés soient organisés dans le cadre des politiques publiques liées à l'immigration, conformément à la Convention des droits de l'enfant, dans notre État, dont notre État est signataire, ils doivent être considérés comme des enfants avant d'être des étrangers
et par conséquent bénéficier d'un accompagnement éducatif tout au long de leur prise en charge et dans le cadre de la protection de l'enfance. Par ailleurs, nos organisations s'inquiètent des implications de cette annonce qui, si elle laisse peser de nombreuses interrogations sur les rôles et les responsabilités de chacun, constitue un recul grave pour les droits de l'enfant dans notre pays. Nous demandons que le gouvernement clarifie ses intentions sur un certain nombre de points. Tout d'abord, concernant leur mise à l'abri, ces enfants, du fait de leur vulnérabilité et de leur minorité, doivent bénéficier d'une protection particulière et ne sauraient être pris en charge en hébergement d'urgence ou accueillis dans les mêmes dispositifs que les adultes. Par ailleurs, tout doute sur la minorité d'un enfant doit bénéficier à la personne qui doit être considérée comme mineure jusqu'à preuve du contraire. Je vous rappelle qu'on a déjà parlé ici des ignobles tests osseux où on met en doute la minorité des enfants et qui sont encore pratiqués à l'heure actuelle par la préfecture de l'Eure, entre autres. Enfin, si nous pensons que l'État doit renforcer son rôle dans l'évaluation de la minorité des jeunes, le cas échéant, c'est en renforçant ses financements et sa mission régalienne de reconstitution des états civils. En revanche, l'indispensable évaluation de l'isolement, de la situation sociale, relève de compétences d'action sociale et de protection de l'enfance des conseils départementaux. Nous demandons aussi à être entendus collectivement sur le sujet des mineurs non accompagnés, et à ce que les acteurs de la protection de l'enfance soient intégrés dans l'ensemble des concertations en cours. Les contraintes budgétaires des conseils départementaux ne sauraient aiguiller à elles seules le sens de notre action vis-à-vis de ces jeunes. C'est l'intérêt de l'enfant qui doit, conformément à notre droit, être notre objectif premier. Donc les signataires de ce collectif sont... les apprentis d'Auteuil, l'ANMEX, la Fédération des acteurs de la solidarité, Habitat et Humanisme, la Fondation Abbé Pierre, l'Armée du Salut, la FNAP, alors Fédération de l'aide à domicile, c'est écrit tout petit, hein, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal, France Terre d'Asile nationale, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, le Secours catholique Caritas France, l'Union pour l'enfance, l'UNIOPS. Alors, UNIOPS, c'est... j'arrive pas à lire ce que c'est, mais je suis désolée. J'arrive pas. Voilà. Donc, c'est un collectif d'associations qui a signé ce texte, et qui demande à ce que soit revu le projet de loi, parce qu'on a très très peur que les enfants, normalement, quand ils sont mineurs en France et qu'ils sont étrangers, ils doivent bénéficier des droits et de l'aide sociale à l'enfance. De plus en plus, et là, quand on voit comment ils essayent de remanier la loi, ils essayent en fait de les traiter comme des migrants, et pas comme des enfants. Et c'est là où c'est pas possible. Et on se retrouve avec des enfants qui vivent déjà des situations très difficiles en France, qui ne sont pas toujours accueillis justement dans les centres de l'aide sociale à l'enfance. Et on peut que saluer le travail, entre autres, du Réseau d'éducation sans frontières, qui s'occupe de, entre autres, des mineurs non accompagnés et qui cherche, même le Réseau d'éducation sans frontières 27 hein, dans l'Eure, qui recherche régulièrement des familles d'accueil pour pouvoir accueillir ces jeunes mineurs non accompagnés parce que l'État n'agit pas comme elle le devrait et ne les accueille pas dans les centres
de
foyers de l'enfance. Voilà.
Tout à fait. Je crois qu'il y avait une autre, un autre coup de gueule, autre coup de gueule à pousser.
Alors là, si je reprends le même papier, ça va pas aller. C'est aussi un texte qui est signé par plusieurs associations, par l'ACAT, par l'ADE, par ARDIS, par le Centre Primo Levi, par les droits d'urgence, par la FASTI. la Fédération de solidarité pour tous les immigrés, par le GISTI, par GRS, par la CIMAD, par la Ligue des droits de l'homme, par le MRAMP, par l'Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, par l'OEE, par la Revue Pratique, par le SMG et le Syndicat de la Magistrature. Donc, tous ces associations se sont rassemblées pour écrire ce texte. Ces préfectures hors la loi. Dans le zèle qu'ils mettent à toujours accueillir moins et expulser plus, plusieurs préfets ont allègrement franchi le cap de la violation délibérée de la loi. Ce sont des Dublinais qui en font les frais, ces demandeurs et demandeuses d'asile auxquels il est imposé de retourner effectuer cette démarche dans le premier pays européen d'accueil en application du règlement dit Dublin 3. Je vous en ai parlé, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent dans certains pays, on leur prend leurs empreintes. S'ils laissent leurs empreintes dans certains pays ou dans certaines ambassades, ils peuvent être en procédure d'accueil d'asile, dite procédure d'accueil Dublin. Ce qui veut dire qu'en fait, la France va refuser d'examiner leur demande d'asile et va demander à l'État dans lequel ils ont laissé les empreintes si l'État peut les accueillir. Si l'État où ils ont laissé leurs empreintes refuse de les accueillir, leur demande peut être examinée en France, mais sinon ils sont obligés de retourner dans l'État où ils sont venus. Donc c'était un petit aparté sur le texte. Donc les Dublinais donc, font les frais de cette politique là, menée par les préfets. Et il leur est imposé de retourner effectuer cette démarche dans le premier pays européen d'accueil en application du règlement dit Dublin 3. Par un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que celles et ceux qui doivent être transférés dans ce premier pays d'accueil ne peuvent être préalablement placés en centre de rétention que si la loi nationale a déterminé les critères objectifs permettant de craindre qu'ils ou elles prennent la fuite. Et par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence, dans la législation française, de dispositions contraignantes de portée générale, fixant les critères objectifs auxquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, un tel placement en rétention était illégal. Et pourtant, nombre de ces hommes et femmes demandeurs d'une protection internationale sont encore convoqués dans les préfectures pour y être interpellés et placés en rétention avant d'être ensuite rapidement transférés dans un autre pays avant même qu'un juge ait pu constater l'irrégularité de la procédure. Autrement dit, ces préfets pratiquent la privation de liberté en dehors de tout cadre légal. Faut-il rappeler que les personnes concernées n'ont commis aucun délit, qu'elles sont parmi les plus vulnérables, qu'elles ont fui leur pays pour préserver leur liberté et sauver leur vie, et qu'elles attendent simplement que l'Office français de protection des réfugiés, l'OFPRA et apatrides, ou tout autre organisme équivalent dans un pays de l'Union européenne statue sur leur cas. Le gouvernement organise-t-il la violation de la loi en ordonnant aux préfectures d'organiser ces procédures aussi illégales qu'expéditives? Ou s'agit-il d'initiatives individuelles de préfets zélés qui, coïncidence troublante, décideraient au même moment de s'opposer aux décisions des plus hautes juridictions? Dans ce cas, comme dans l'autre, un retour à l'état de droit s'impose. C'est pour que ces exigences soient fermement rappelées que les associations de défense des droits et les avocats qui défendent les personnes demandeuses d'asile s'adressent solennellement au gouvernement. Donc tous les signataires de ce texte, hein, dont je vous ai dit la liste tout à l'heure, s'opposent à ce qui se passe en ce moment dans les préfectures. Et pour élargir un petit peu, c'est vrai que, bon, je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de vous en parler au mois de septembre, mais on a quand même vu se durcir l'accueil des demandeurs d'asile l'accueil des demandeurs d'asile, mais aussi l'accueil des personnes qui veulent régulariser leur situation. Mmh. Avec l'état d'urgence, C'est devenu très très compliqué. Vous savez que pour pouvoir demander une carte de séjour, il faut présenter un certain nombre de documents, quelle que soit la carte de séjour demandée. Vie privée familiale, ou santé, ou travail, ou études. Il faut de toute façon avoir un acte de naissance, il faut avoir un passeport ou un papier valide pour que cette demande puisse être enregistrée. De plus en plus souvent, les gens qui arrivent pour régulariser leur situation à la préfecture, on l'a vu cet été, en fait présentent leur passeport et ben on leur prend leur passeport, on leur donne à la place un papier et des fois, alors pas toujours, mais souvent on leur donne un papier comme quoi c'est la préfecture, entre autres là c'est la préfecture de l'Eure, qui détient leur passeport et qui leur sera rendu que quand ils quitteront le pays. Et souvent, c'est assorti du OQTF, obligation à quitter le territoire français, sous 30 jours, ou parfois même, en principe, sous 30 jours. Donc, ils peuvent faire un recours, mais c'est vraiment de plus en plus compliqué. On a vu cet été des mamans aller en préfecture pour régulariser leur situation, et c'était des mamans d'enfants français. Eh bien, elles ont eu des obligations à quitter le territoire français. Alors que leur enfant, par filiation, parce qu'elles ont, ils ont un père français, ont la nationalité française. Mmh. Donc, c'est de pire en pire. Hein. On a vu vraiment des dizaines d'OQTF distribués cet été, ou des centaines. Et c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. Alors, je parle de la préfecture d'Évreux parce qu'on est dans l'Eure, mais il y a dans plein de départements français, c'est la même chose. Et c'est quand même un accueil qui est vraiment de plus en plus inhumain, qui est réservé aux personnes en situation de migration et qui essayent de soit demander asile, soit demander le droit au séjour.
C'est une nouvelle illustration de la crise de l'accueil des réfugiés dont on parlait tout à l'heure, c'est clair. Merci Claire-Lise pour ces coups de gueule bien justifiés. Bon, on leur tourne, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Renan, tu as une autre bonne nouvelle à donner? Non? Tu n'as pas de bonne nouvelle?
Je pense que tu as peut-être des actions locales.
Des actualités locales. Mais vas-y, si tu as une bonne nouvelle, vite fait, quelques secondes. C'est toujours intéressant, les bonnes nouvelles. Ça remonte le moral. Non, pas l'appel à l'action, une bonne nouvelle.
Ah ouais, moi, je dis ça, l'appel à l'action.
L'appel à l'action, ça va être trop long, on ne pourra pas le faire.
Non, vas-y, continue.
Ah bon,
je te passe la main.
Bon, alors notre actualité locale, ben nous on sera là au mois de novembre, on a plusieurs choses, on sera le 11 et le 12 novembre au marché de Noël de Saint-André qui aura lieu au salon Antonal, et c'est à la salle du Clos Mulot et sur le parc du château Drouet. On y sera pour vendre du matériel d'amnistie, des calendriers et aussi pour vous faire part de nos actions et signer des pétitions.
La salle du Clos Mulot, c'est à Saint-André-de-l'Eure.
Saint-André, mais j'ai dit quoi?
Non, t'as dit Saint-André, mais t'as pas dit de l'heure.
Ah, Saint-André-de-l'Eure, Saint-André-de-l'Eure.
On n'a pas entendu.
Parce que tu sais qu'on est écouté dans le monde entier, donc ça voilà. Faudrait...
Donc, samedi 11 et dimanche 12 novembre, on sera présent sur le marché de Noël de Saint-André-de-l'Eure pour vous faire part de nos actions et vous vendre des calendriers si vous êtes intéressé. Autre actualité locale, on sera, c'est la semaine d'après si j'ai bien compté, le samedi 18 novembre, on sera à la fête des droits de l'enfant, qui est organisée par nos amis de l'association La Cause des Enfants. Donc c'est la fête des droits de l'enfant. Le droit à la liberté, le droit à la liberté d'expression, le droit à une identité, le droit à la famille, le droit à l'éducation, le droit à la santé, etc. etc. Et tout ça sera défendu de façon assez ludique, avec pas mal d'associations, dont nous. Et donc c'est le samedi 18 novembre de 10h à 17h, et c'est à la maison de quartier de la Madeleine, place Kennedy, donc samedi 18. Et puis le 30 novembre, c'est un peu plus loin, mais le 30 novembre, on sera également présent au Cube pour le premier concert en soutien avec la scène nationale, notre présence avec la scène nationale. C'est un concert où on aura l'occasion d'applaudir Alani, qui est une chanteuse caribéenne de langue anglaise. De jazz, oui, et de folk. J'ai écouté un peu sur Internet, c'est très sympa. Et donc, on sera présent, on aura un stand. Donc, c'est le jeudi 30 novembre au Cube, à la salle des musiques actuelles, en collaboration avec la scène nationale, enfin le Tangram maintenant. Et c'est un concert d'Alani. Donc, ça, c'est le 30 novembre. Donc, voilà, notre actualité locale. On vous en reparlera à la prochaine émission. Prochaine émission qui aura lieu, coupe pas, Renan, la prochaine émission qui aura lieu le...
Le 14 novembre.
14 novembre.
Pour mettre en lumière les violations des droits.
Sortez de l'oubli. Allez, bonne soirée à tous et au 14 novembre.
À bientôt.
Au revoir.
article premier.
Salut.